Voilà, notre invité, rédacteur en chef de Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Comment ça va, Jérôme?
Bonjour, messieurs. Ça va très bien, vous?
Ça va très bien?
Oui, t'es des nids de poule, tout est beau, tu t'es rendu à bon port.
Une crevaison récemment, quand même.
C'est vrai?
Bon, oui, bien écoutez, il paraît 50% d'augmentation de crevaison à Montréal, 30% dans le reste du Québec, selon les données de CAA.
Ben, t'as vu l'état des routes, là? Aujourd'hui, il y a une espèce de bilan des routes, puis c'est
épouvantable. Le déclin du Québec prend des allures parodiques.
C'est corruption. On n'est pas capable de faire nos nids de poule. Puis quand il y en a qui prennent l'initiative citoyenne, on les tag. On dit, non, toi, tu n'as pas d'affaires. Tasse-toi, là.
Règlement est sain, évidemment, au Québec, ce que j'ai appelé le réglementarisme. Donc, écoute, ça me prend des allures parodiques avec Christine Fréchette. Est-ce que ça va s'améliorer réellement?
Ben elle s'en va en France, là. Elle s'en va se promener en France la semaine prochaine.
Donc là, est-ce qu'il suffit, bon, d'avoir une femme, comme première ministre?
Non, mais je pense que la machine est rendue. Puis là, tu le vois, juste dans l'informatique, on dit que les dépenses vont atteindre 20 milliards d'ici les 10 prochaines années. Il y a 9 milliards seulement de budgété.
Moi, ce qui me surprend, c'est vraiment l'entêtement de la caste, de l'establishment. C'est la fuite en avant. C'est-à-dire, on s'entête, on ne fait aucun examen de conscience et cette histoire-là de taxer davantage les riches...
Oui, mais là, l'EQS, là...
Ça participe de ça, c'est-à-dire, au lieu de revoir le modèle, on va le pousser jusqu'au bout. C'est vraiment incroyable et c'est ça à quoi on est en train d'assister. Et on a vu aussi que les médias traditionnels étaient en train de préparer aussi les mentalités. On prépare le terrain des hausses d'impôts.
Ben eux, subventionnés aussi là, à hauteur de 50% de ton salaire. Donc, les salles de presse dépendent maintenant des deniers publics.
Exact.
Donc là, il n'y a plus de... Les sauve-conduits, il n'y en a pas. Là. Le quatrième pouvoir repose maintenant quoi sur des indépendants?
Moi, je dirais que le quatrième pouvoir repose sur le pouvoir. Dans une démocratie libérale, c'est rare qu'on voit ça. Là.
Pensez à ça, c'est merveilleux pour les politicos de financer des médias comme ça.
C'est une aubaine incroyable. Ben, on est en URSS là, pratiquement, là, c'est-à-dire, pas complètement, mais quand les médias
dérangent trop,
sont alignés directement sur le pouvoir politique, parce qu'on est carrément là, puis c'est fait de manière décomplexée. Donc, il suffit pour un politicien maintenant, même en campagne électorale, de promettre plus d'argent à un média même média adopte une couverture favorable.
Ouais, exact, on l'a vu.
Donc, on est carrément, évidemment, il y a un déficit démocratique énorme, mais on ne le voit pas. Nous, au Québec, au Canada, on a grandi dans le mythe c'est d'une société parfaite, une démocratie immaculée. Les autres, c'est des régimes autoritaires. Nous, c'est parfait. Hein. Les institutions sont tout à fait bien menées. Il n'y a pas de corruption, justement. Les nids de poule, c'est une affaire de changement climatique, Pierre, tu sais. Là. Il n'y a pas de corruption. Mais imagine l'aubaine pour le crime organisé. Quand le crime organisé a compris à un moment donné que les médias n'allaient plus faire état de la corruption, mais allaient plutôt attribuer les nids de poule au changement climatique. C'est une aubaine incroyable, l'environnementalisme, finalement, pour le crime organisé. Non, imaginez, là, c'est une vraie farce.
Oui, puis taxons les riches, eat the rich, là, on l'entend. Ouais. Mandani, à New York, est en train de se river le nez sur un système capitaliste qui refuse sa façon de faire. Là. Et on voit l'exode des capitaux. Là, ici, au Québec, il y a eu des exodes de capitaux. Là, tu vois, il y a plein d'entreprises qui ferment. Il y a plein d'entreprises qui disent, on s'en va.
C'est pas juste de capitaux, Pierre, là. Puis c'est ça qui me fascine dans ce débat-là. C'est-à-dire, on parle de l'exode potentiel des riches, mais la question, c'est de savoir si les Québécois de la classe moyenne ont encore les moyens de rester au Québec, là, dans bien des cas. C'est-à-dire, il n'y a pas juste les riches.
Il y a des gens qui disent, moi, je quitte, j'emballe les petits, je vends la maison, je m'en vais vivre en Alberta, je m'en vais ailleurs.
Pour d'autres provinces, mais aussi pour d'autres pays, moi, j'en sais quelque chose. Bon, souvent,
au Mexique, il y a beaucoup de Québécois.
Ça fait des années que des gens m'écrivent toutes les semaines pour me dire, bon, comment je fais pour sortir du Québec? Donc, puis il y a des données qui le montrent récemment. Il y a eu un article là-dessus à Libre Média. En 2024, 100 000 Canadiens ont quitté le pays. Depuis la pandémie, il y a au moins 100 000 Canadiens maintenant qui quittent le pays, c'est-à-dire bientôt. Pour 5 immigrés qui rentrent au Canada, un Canadien va sortir. On est là. C'est même statistique Canada.
Ben hier, il y a un député, là, je pense, de l'Ouest. Je pense que c'est un conservateur qui a montré comment les gens d'affaires quittent le Canada. S'en vont carrément, Nick.
Ah oui,
tu m'étonnes.
S'en va aux États-Unis, mais il n'y a pas juste les
Mexique,
États-Unis.
Mexique, Costa Rica.
République Dominicaine.
Les juridictions, c'est pas compétition.
Ouais.
Donc, c'est une mesure ultra populiste, là. C'est-à-dire, c'est
Panama.
Drôle que...
Panama.
Ouais, Panama, bon, c'est sûr, c'est des paradis fiscaux, là, connus depuis longtemps.
Moi, je connais des gens qui ils viennent du Panama. Il y a des beaux coins au Panama, là. Il y a des coins. OK, là, tu ne vas pas te promener là, peut-être pas, là, mais. Il y a quand même des...
Mais c'est beau.
Là, il y a des coins où il y a des gate communities, là, puis c'est surveillé avec des gardes
armés. Après, c'est un peu de la ghettoisation, là. C'est bon. Des fois, les expatriés ont ce réflexe-là, finalement, pour vraiment s'intégrer aux sociétés où ils arrivent. Mais ça participe de ça. Donc, taxer les riches, c'est une mesure qui est facile, qui est ultra populiste. On va dire qu'Éric Duhaime fait du populisme. Bien, écoutez, taxer les riches, c'est quelque chose de plus populiste que
mais
ça.
Mais ça, on le voyait venir, là. Ils ont vu que Mandani, ça a marché. Fait qu'ils ont dit, on va le faire ici, QS, là.
Oui. Donc, radicalisation du discours à gauche, puis entêtement et déni. C'est-à-dire, moi, je persiste à le dire, là. Au lieu de dire, il faut sortir de ce modèle-là, ben non, on va s'enfoncer encore plus dedans. C'est absolument incroyable. Donc, ça va coûter encore plus cher.
Parce que plus de paperasse, plus de réglementation, ça pour les entrepreneurs. Puis là, j'ai des chiffres là, au niveau de l'entrepreneuriat. Le nombre d'entrepreneurs au Québec a diminué en 10 ans. Diminué de moitié quasiment en 10 ans.
Ça va mal aussi sur le plan du reprenariat. Là, apparemment, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment les livres finalement parce qu'ils n'ont pas de repreneurs. Apparemment, c'est un grave problème aussi au Québec.
Oui, exactement. Donc, on met les bâtons des roues des entrepreneurs qui créent, parce que c'est eux autres qui créent la richesse. Ce n'est pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires prennent l'argent du privé puis ils se payent un État avec ça. Mais s'il n'y a plus de privé, ou si tu dis au gars, tu as 25 millions et plus, fait que ton argent, on va venir te la chercher, lui, il va dire, ben là, attends une minute, moi, je vais la mettre ailleurs, mon argent. Là. Je ne la mettrai pas ici. L'investissement à levier qu'il appelle, tu as besoin de l'argent pour de l'argent. Donc, t'es ces gars-là qui ont des gros montants, mais qui investissent dans des entreprises aussi. Donc,
oui, bien, en général, ça prend des riches. En fait, le Québec manque de riches.
On n'a pas de riches.
C'est le contraire. Donc, c'est une mesure ultra-populiste qui va, évidemment, c'est une mesure cosmétique qui va plaire à un certain électorat un peu frustré de sa condition. Mais même à moyen terme, on peut s'attendre à juste empirer la situation.
Exact, exact.
Donc, c'est pas fort. Puis, mais en même temps, comme tu dis, ça me surprend pas. On l'entend en France aussi, Mélenchon, donc, tout ce courant à gauche. Mais c'est des solutions ultra faciles, puis temporaires aussi.
Oui, non, ça va être à suivre. Ça lève, parce que QS est à 8, on va le voir.
Il y a ça, oui, oui. Le QS s'enfonce.
Bien, il va rester, d'après moi, il va rester juste des blancs à QS, là, de ce que je vois. Là. Parce que là, t'as quoi? Là? T'as Nadeau-Dubois qui est parti. Mais c'est Boulris qui va le remplacer. Fait que lui risque peut-être de rentrer. T'as Guillaume Rivard-Clich, qui est un avocat de Montréal, qui pourrait rentrer. Puis c'est quoi les autres de QS? T'as ici Étienne Grandmont. Puis t'as ça, Zanetti. C'est quatre blancs, ça.
Ouais, ouais.
Non, non, mais c'est vrai, pareil. Alors que les autres prônent la diversité là, à grand déploiement.
On se demandait récemment, même si un homme blanc pouvait être le chef.
Ben là, d'après moi, ils ont leur réponse.
Bon, ça les rattrape. On dit la gauche, ça finit toujours par s'entre-dévorer, on le sait. Donc, mais je pense qu'il y a un réveil là, progressif. Le coût de la vie est tellement rendu élevé au Québec, honnêtement, c'est très concret. Là. Donc, je pense.
Mais le système actuel crée une frustration. Tu dis qu'il y a beaucoup de monde qui ne se retrouve plus. Ils pourraient voter. Pour des mesures
c'est
comme
possible,
ça, parce qu'ils se retrouvent plus, puis ils se disent, ben là, moi, je sais plus, là, je suis mêlé, puis on va y aller avec le facile, c'est-à-dire on va taxer les riches.
Mêlé à ça, c'est ça, une sorte de jalousie, bon...
Parce qu'il y a ça aussi au Québec.
Canadienne-française, finalement, là, c'est-à-dire cette espèce de méfiance qu'on a aussi envers les riches depuis toujours au Québec. Donc, c'est évidemment, on sait que c'est mal vu.
Ah, c'est des valeurs, c'est des...
Ah, ben oui!
T'es mieux de pas avoir trop réussi quand même au Québec.
Mais je connais du monde, moi, qui ont des très bonnes business. Petit bungalow, petit char, ils ont des maisons en Floride. Là, ils peuvent s'étaler parce qu'il n'y a pas de gêne.
Pas le plus discret ici. Ouais.
Mais ici, là, c'est, je te le dis, Nick, c'est dans un petit quartier résidentiel, petite maison. Là, le gars, il a essayé d'avoir une Mercedes blanche. Il s'est fait écœurer. Il a
vendu parce
ça.
Que s'est qualifié de « Ah, il y a du fraudé, du cassé du monde. »
Ben, c'est toujours...
C'est ça.
C'est subtil, la suspicion,
hein?
Effectivement. Exact. Ouais,
t'arrives à une place, puis là, il te voit y arriver avec ta Mercedes blanche.
Ouais, pour moi, lui, c'est un croche.
Puis là, ben là, ils viennent... Tu sais, je veux dire, tu parles avec des gens, puis là, ils disent « Ah, une nouvelle voiture. »
Et crois-tu un scénario argentin? Parce que là, ça me semble la situation...
Ben, je pense qu'on n'a pas encore été au fond.
Non?
Non. Ça va prendre... Puis je ne sais pas si on va y aller au fond, là, dans la mesure où on va peut-être être capable de tournoyer. Parce que la prochaine étape, c'est les fonds de pension. Là. L'État n'est plus capable de payer. Là. Tu vois, c'est des déficits, même au fédéral. C'est des 60 milliards de déficits. À un moment donné, la dette... Là, tu finances ta dette avec quoi, gars, au UK? Là, ils sont en train de sortir Starmer. Là, les taux d'intérêt obligataires... Ils sont rendus quasiment à 5,6 %.
Parce que là, des gens qui font leur épicerie au Dollarama, puis tout ça, là, c'est ça dont on entend parler.
Oui. Oui.
C'est quand même...
Les liquidations, beaucoup aussi.
Mais les Argentins ont souffert beaucoup. Ce que je vois pas, les Québécois, on n'est pas là encore. On est comme en train de descendre.
Non, parce que tu vas au centre d'achat fin de semaine, t'as encore la misère à trouver un stationnement. Fait que tu te demandes quand même où les gens mettent leur argent aussi.
Exact.
C'est un peu spécial.
Mais il y a 50% des gens au Québec qui vivent très bien d'une paye à l'autre, alors que t'as l'autre 50 qui lui n'arrache.
Uh-huh.
Et t'as beaucoup de salaires de l'État aussi là-dedans. Là.
Oui, énormément, mais au Québec.
Donc t'as beaucoup de.
Étatisme mur à mur.
Et d'entreprises qui dépendent des revenus de l'État. Dès que l'État va commencer à couper, là, je te le dis, il va peut-être avoir. Ça va lever un petit peu plus. Autre dossier que je voulais parler avec toi.
Oui.
Radio-Canada.
Mm-hmm.
Est-ce que ça prend une enquête sur Radio-Canada? D'où vient l'argent? On le sait. Mais où va l'argent? qui on finance? Est-ce que c'est l'extrême gauche, la gauche? Puis les idées à partir du centre jusqu'à droite, là, il n'y a plus rien.
Mais je pense que oui, c'est Christian Rioux, l'ex-correspondant du Devoir à Paris, ouais, qui a soulevé la question
dans le Journal de Montréal. En France, ils y ont fait le travail.
Exactement,
hein,
sur cette base-là. C'est-à-dire, en France, il y a une grande commission, la Commission sur l'audiovisuel, qui a vraiment révélé l'existence d'une sorte de caste là, médiatique, donc d'un petit groupe de personnes qui finalement s'échangent des contrats, puis bon, tout passe finalement par le même noyau.
Les politicos couchent avec les médias couchent avec les politicos, on le voit ici.
Même très concrètement, ils sont même penchés sur, par exemple, les conjoints et conjointes là, de certaines personnes.
Là, on commence à voir ça ici.
Impliqués dans les médias, c'est-à-dire quand ton conjoint est député au Parlement européen, etc., et que tu es la journaliste la plus vue, par exemple, de la semaine. Bon, après, les rapports conjugaux, c'est un peu plus compliqué, là, puis les gars peuvent avoir des maîtresses et inversement. Donc, c'est ça, si on commence à se pencher là-dessus, ça peut aller loin. Mais les conclusions sont quand même assez révélatrices. Ouais. Là. Donc, puis on a fait état d'une sous-représentation, évidemment, de ce qu'on appelle la droite en France, dans les médias. Donc, c'est la gauche toujours qui s'exprime, qui a le haut du pavé. Donc, elle a pratiquement le monopole. La question, c'est de savoir déterminer un peu le pourcentage. C'est-à-dire, on a déterminé des chiffres. Et combien, par exemple, combien de temps d'antenne peut avoir la droite, entre guillemets, par semaine en France par rapport à la gauche dans les médias d'État? Puis évidemment, on s'est rendu compte que la droite, c'est à peu près 15% là, qu'elle avait sur la gauche. Donc, c'est pas équitable du tout. Concurrence déloyale aussi par rapport au privé, un peu comme on le voit ici. Donc, des conclusions quand même assez, assez choc. Donc, la question, est-ce qu'on peut faire la même chose au Canada avec Radio-Can? Je pense qu'il faut intégrer tout le monde. Le Rioux, lui, parle seulement de Radio-Can. Québécois, c'est-à-dire, y a-t-il encore des médias vraiment privés au Québec?
Bien, si tu finances à 50% avec des crédits d'impôt les médias, donc tu dois inclure tout le monde, là, je veux dire, à un moment donné.
Mais il n'y a rien de 100% privé là, aujourd'hui. Là.
Mais au Québec,
dans les médias.
On ne pourrait pas faire ça au Québec. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va proposer ça.
La caste, l'establishment n'a pas intérêt non plus à le faire, absolument pas. Puis bon, on n'est pas beaucoup dans la transparence depuis la COVID, là, depuis les contrats sans appel d'offres, etc. Carney n'est pas un gars transparent non plus, pas un dirigeant transparent pour deux cents. Donc, est-ce que les gens seraient favorables à cet exercice-là? Sans doute pas, mais ce serait bénéfique quand même. Mais en même temps, c'est ça prendrait des gens qui siègent sur la commission, qui soient réellement indépendants, pas seulement d'autres valets du système, là. Mais c'est bien que justement la question émerge, parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience actuellement, là, on le voit sur les réseaux sociaux, les gens voient c'est-à-dire ils reçoivent vraiment de l'information qui est la propagande.
C'est tout le temps les mêmes visages, tout le temps les mêmes faces, ça semble être
consanguin,
un système, puis tu le vois là, à Montréal, le gars TVA aujourd'hui, là, je pense que c'est 16 millions de pertes, puis là, ils commencent à couper dans le gras, puis là, vedettes de TVA, mais les vedettes de Radio-Canada, tu les entends pas parler, les autres, l'argent rentre, il n'y a pas de problème, là.
C'est doublement déloyal.
La casse là, est parfaite. Là. Et là, tu commences à avoir des vedettes de TVA qui vont à Radio-Canada, donc qui profitent aussi du système à gauche, à droite comme ça.
Puis on a même des animateurs à Radio-Can qui se moquent du privé, hein, comme on
absolument
l'a vu.
Absolument.
Donc la casse.
La fameuse soirée, c'est ça, est encore jeune, la journée, je pense.
Oui,
maintenant.
C'est ça. La casse supérieure, tu sais, dans la cour d'école, là, la petite gang toute bien habillée là, qui rit des autres, là, c'est un peu ça. Là,
c'est complètement indécent. C'est fait avec notre argent travaille contre nous.
C'est épouvantable.
C'est un vol organisé des contribuables. Vous comprenez ce qui se passe. Là, on prend votre argent dans vos poches puis on le donne à des gens qui vous chient dessus à longueur d'année. Non, mais sérieux, on est là pareil. Là, maintenant, il faut le dire. Là.
Exact.
On prend votre argent dans vos poches puis on le donne à des animateurs d'extrême gauche qui proposent de vous contrôler, de vous taxer davantage. Avec votre argent.
Oui. Selon la valeur des politiciens qui leur promettent de l'argent aussi.
C'est ça.
Parce que Carnet avait promis de l'argent à Radio-Canada, Poilievre lui disait « Je coupe tout ». Ça, c'est une erreur selon moi de Poilievre. Il aurait dû fermer sa boîte comme en Hongrie, là. Puis de dire, ben regarde, je vous annonce en direct que vous êtes, c'est terminé. Votre
c'est fini.
Ouais, c'est ce qu'il avait dit, hein?
Le jeune
qui a remplacé Orban là, en Hongrie.
Et
Libre Média, vous avez une entrevue avec Jacinthe Evarel?
Oui, aux grandes entrevues. Ouais,
elle était dans Machine.
Oui, c'est ça. Ben
et
oui.
Elle explique qu'est-ce que. Il y a des gens de Radio-Can, Nick, qui venaient voir Jacinthe et qui disaient, là, tout est à droite, hein? Fais attention, là, parce que...
Attention, on aime ça. Il y a des gens qui se réjouissaient quand même de sa présence. Hein, c'est ce qu'elle nous raconte.
Mais
allez
va
voir
pas
ça,
trop
là.
Loin. Va te chercher une crédibilité, parce que là, c'est tu garoches des chiffres trop vite, puis...
OK, fait qu'on l'alignait, là, tranquillement.
Oui, mais on fait, a eu des
comme, très balisé.
Des avertissements, là. Des avertissements, là. Si tu vas trop loin à droite, ça se peut que tu perdes ta job, là.
Oui, très balisé.
Elle l'a perdu, là.
C'est un climat d'omerta, on se rend compte, à Radio-Can. Il y a quand même des gens là-dedans qui aimeraient avoir une diversité d'opinions plus grande, c'est mais épouvantable. Ils sont confrontés au système auquel ils appartiennent. Donc, tout le monde, c'est l'omerta à l'intérieur des murs de Radio-Can. Ah, c'est ça qui sort de cette entrevue-là.
Ça doit aller être épouvantable.
Subventionné en plus.
Oui. Super.
Mais les commandes politiques viennent direct. Là. C'est ça qu'on pourrait établir. Là. C'est que la chaîne de commandement vient d'où? Elle vient-tu du gouvernement ou elle vient du parti politique qui a mis du monde en place?
Pour... Tout le monde se connaît. Allez voir en France, je vous dis, parce que c'est la même chose au Canada. Là. Encore là, le Canada, c'est pas plus démocratique que la France ou... Non. En France, il y a carrément des journalistes qui ont été attrapés, là, c'est-à-dire en train de comploter avec des députés, oui. Là, notamment Pratik Cohen, qui est un éditorialiste très connu, qui était avec des gens du parti, soit du Parti socialiste ou de La République en marche, là, je pense, du Parti socialiste, et qui ont eu un meeting qui a été enregistré à leur insu et qui, finalement, on voit que le journaliste dit « Bah, écoutez, là, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, finalement, dans les intentions de vote? » C'est un journaliste, là. Puis des histoires comme ça, il y en a sans doute au Canada. Ça. On n'est pas blanc comme neige, là.
Non, non, non.
Je sais pas pourquoi on continue à penser ça, à avoir cette vision de nous-mêmes, hein, une sorte de vision... comme on est des hobbits, nous autres, on est parfaits, on est à l'abri du Mordor, tout ça. on est incorruptibles, c'est faux, là. Le Québec n'est pas plus incorruptible qu'aucune place sur Terre. Ouais.
Mais on arrose beaucoup aussi. Mais que l'argent commence, la source va se tarir, là. Peut-être qu'on va avoir des reality checks, qu'ils appellent, là.
Ça donc, commence. Je pense qu'il y a une grogne sur le réseau.
Jérôme Blanchet-Gravel, Libre Média, on peut s'abonner?
Oui, idéalement. À partir de 6 $ par mois, version mensuelle, pour à peu près une soixantaine de contenus par mois, originaux, de qualité.
Là, tu t'en vas faire une conférence au Mexique?
Ben oui, Mexico, je repars. Je reviens de Madrid à peine.
Comment va l'Espagne? Parce qu'eux autres, ils ont un saucé aussi.
Mal avec le gouvernement socialiste. Donc, je me suis penché là-dessus notamment. Donc, ça, c'est des histoires de corruption aussi d'un autre niveau, par contre. Vraiment, d'un autre niveau, des lingots d'or à l'aéroport emmenés par la vice-présidente du Venezuela.
Ben voyons donc.
Mais en fait, la dirigeante actuelle du Venezuela, placée par Trump, Delcy Rodriguez, elle a été attrapée à l'aéroport Bajaras de Madrid avec des lingots d'or. Alors qu'il était barré de l'Union européenne. C'est vraiment des histoires à la James Bond, au moins c'est le fun.
Ben, on a ça aussi, il y avait une femme.
C'est un autre niveau là, de corruption.
Oui. Ici, on va extrader une femme du Mexique, là, une haute femme des cartels, là, épouse de cartel.
Ben, oui, ou
de... Mais elle rentrait ici, là, elle ne devait pas rentrer. Là. Elle rentrait sous d'autres noms, puis finalement, elle rentre avec les.
Oui, c'est sûr que l'immigration latino-américaine peut emmener, il faut le dire, une certaine criminalité. Mais c'est...
Merveilleux. Ben Jérôme, merci beaucoup.
Merci.
Après la pause, Rodolphe Osni, là, tout ce qui est politique, on va en parler, on revient.
Coup dur.
Petite pause. On revient dans pas long.
Dans le mid. Ouais. Radio X.